France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Hardy Dutronc, féminin masculin. Épisode 6, devenir ce qu'on a toujours été. En janvier 2010, Jacques Dutronc, 67 ans, reprend la route pour une cinquantaine de dates. Cela paraît beaucoup évidemment, mais comme il ne part en tournée que tous les 15 ou 20 ans, sa moyenne annuelle de concerts reste relativement basse. L'affiche officielle de la tournée le montre assis dans un fauteuil club, sans cigare, mais avec des lunettes noires. Un Dutronc tel qu'on lui-même, tel qu'on l'a toujours vu, tel qu'on se le représente.
Un certain Jacques Dutronc qui retourne sur scène après 17 ans d'absence. On le verra à partir du 8 janvier.
Les places pour cette tournée sont parties en un rien de temps, alors même qu'il n'y a pas de nouvel album. En fait, le public n'est pas venu chercher la nouveauté, mais retrouver sa propre jeunesse, réentendre des titres connus, se laisser bercer par la nostalgie. Que le public ne lui demande rien de nouveau, mais simplement de rejouer ses anciens tubes, ne semble pas troubler Dutronc le moins du monde. Après tout, pourquoi pas.
Qu'est-ce que vous allez chanter sur cette tournée? C'est principalement les chansons de cette époque-là, des années Vogue?
Bah, j'ai que ça d'ailleurs en stock. Hein. Non, mais je veux dire, j'ai pas de nouveaux disques ni de trucs comme ça. Mais même si j'avais un nouveau disque, ça n'intéresse pas les gens tant qu'ils le connaissent pas. Enfin, j'ai déjà vu ça chez d'autres. Les gens sont contents pour les trucs qu'ils connaissent, et dès qu'on on essaye de, à moins que ce soit une chanson, mais alors exceptionnelle, là les gens écoutent, sinon ils s'en foutent un peu des nouvelles, ils préfèrent les digérer petit à petit. Bah donc moi je suis obligé de reprendre des vieilleries légèrement modernisées, mais enfin bon, modernisées, elles se modernisent par le son, de toute façon sans faire des arrangements tout à fait différents. Quoi.
Dans la biographie qu'il a consacrée au chanteur, mon invité pour cet épisode, Michel Lédier, raconte les moments qu'il a passés avec lui dans son repère de Monticello, la maison de Dutronc en Corse. Enfin, c'était la maison de Françoise Hardy, mais il y a résidé bien plus souvent qu'elle. Il raconte les débats autour du petit bar de la maison sur les chansons du répertoire à choisir pour la prochaine tournée. Que jouer sur scène après tant d'années ? Des incontournables, bien évidemment, comme Les Cactus ou Paris s'éveille, mais aussi quelques envies du chanteur, plus originales, comme L'hymne à l'amour moelleux, qui est, dit-il, sa préférée. Il ne transigera pas sur celle-là. Et puis il faudra bien intégrer autour de chant le titre « À la vie, à l'amour » car c'est la préférée de Françoise.
Mais mourir assouvi de tes cajoleries.
Voilà à nouveau résumé leur conception respective du sentiment amoureux. Pour lui, la dérision avec son hymne à l'amour moelleux. Pour elle, l'amour toujours avec la chanson « À la vie, à l'amour ».
Premier vrai soupir. Oh, mon dernier sourire est te faire tressaillir avant de m'évanouir. Amour, tu me tueras.
Quel est son signe d'abord à Jacques Dutronc?
Il est taureau ascendant poisson.
Taureau ascendant cigare.
C'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que quand on.
Au départ, j'étais pas du tout taureau, mais c'est à force d'avoir
taureau
des cornes.
Taureau ascendant poisson.
À force d'avoir des cornes, il est devenu taureau. Ça, c'est amusant.
C'est terrible de dire ça.
Non, mais non, parce que c'est faux, totalement faux. Ouais. Bah, elle aurait été peut-être plus heureuse. Bah non, mais c'est vrai que je suis taureau et j'insiste. Ouais, c'est Casanier le taureau. Hein. Et le taureau est fidèle, à ne pas oublier. Fidèle en amitié et en amour. Bon, il peut faire des. Il peut quitter l'autoroute de temps en temps, il peut prendre un petit sentier comme ça. Mais il est très fidèle et machin.
Ça vous intéresse ces histoires d'astrologie ou...
Non.
Non.
Bah non, parce que c'est comme le piano avec mon père. Je veux dire, j'ai entendu parler de l'astrologie sans arrêt, un mercure aveugle. Et ceci, ça. Non, j'en peux plus. Et puis. Ce qui m'intéressait dans l'astrologie, ce qui m'intéresse, c'est ce que faisait Françoise avec Jean-Pierre Nicolas, c'est que ça va au-delà de tous les imbéciles qui se disent astrologie. Alors, est-ce que je vais gagner du blé? Est-ce que ma femme va revenir? Est-ce que je vais trouver... Non, ça, non. Non, non, mais enfin, Françoise ne fait pas ça, heureusement. Mais c'est trop... C'est trop complexe, leur langage. Mercure aveugle, je ne sais pas quoi, il a une maison 8 un peu chargée... Bon, je veux bien, moi, au bar, dire ça, mais je sais pas si je me ferai des potes, tu vois, bistrot du coin, tout ça.
Alors ça,
ah,
c'est...
il paraît que j'ai un mercure aveugle. Eh ben, vous nous remettez ça. Ah, il paraît que j'ai une maison 8 chargée. Eh ben, alors... Eh ben, on va recharger, rhabiller les mômes.
Michel Lédier, vous êtes écrivain et auteur d'une biographie de Jacques Dutronc, disponible chez Point. À quoi vous pensiez en réécoutant ces archives, et celle-là en particulier ?
Je ne connaissais pas celle-ci, mais ça me rappelle un jeu de mots qu'il a fait un jour à propos de l'astrologie. Il a dit l'astrologie, c'est la science des astres.
C'est le personnage que vous connaissez, que vous entendez là, c'est vraiment la même personne devant le micro et hors micro ?
Il y a vraiment très peu de différence entre ce qu'il est, que ce soit dans ce qu'il dit ou dans son comportement. Vous le voyez descendre de sa chambre le matin avec le cigare à la bouche et les lunettes noires, et c'est la même tenue quand il va se coucher, quoi. C'est... Et ce qu'il dit, il est jamais dans la médisance, quoi. Il est toujours dans une forme de... J'allais dire de respect, mais c'est dans son attitude, c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment du respect. C'est plutôt le trouver la chose un peu rigolote à dire sur une personne ou sur un sujet.
Mais sans se moquer, c'est ça ?
Non. Ou alors, si, il peut se moquer, mais quand la personne est en face. Là, il se prive pas. Hein. Il peut même être très piquant.
Ça vous est arrivé ?
Alors, je me souviens d'un jour... En fait, je crois que ça répond chez lui à des angoisses personnelles, des situations qui le mettent mal à l'aise. Et je me souviens d'un jour... Bah, quand je crois que c'était l'époque où on relisait les épreuves de la bio, donc en 2004, et à 20 ans et quelques... Il m'avait demandé de revenir, parce que ça le barbait de relire les 300 pages d'épreuves. Donc il m'a dit, s'il te plaît, viens, et tu m'en lis une trentaine de pages par jour. Donc en 15 jours, ce sera plié. Donc j'ai dit, ok.
Donc vous lui avez fait la lecture.
Donc je lui ai fait la lecture. Et pendant ce séjour, il y a eu ce qu'il appelle une oursinade, c'est-à-dire on fait venir un restaurateur du coin avec un break, deux commis et un coffre plein de sacs d'oursins. Et pour... je sais pas, une demi-douzaine ou une douzaine d'invités. Voilà, c'est un festin. Et je me rappelle qu'il y avait Jean-Marie Perrier ce jour-là, qui séjournait chez Jacques. Et il m'a dit, avant que tout le monde arrive, il m'a dit, puis je le sentais mal à l'aise, il m'a dit, je risque d'être chiant aujourd'hui, avec toi. Et il l'a été.
On a passé deux extraits de chansons sur l'amour, la préférée de Dutronc et la chanson préférée de Françoise Hardy. Est-ce que vous êtes d'accord, Michel Lédier, avec l'idée que ces deux chansons représentent deux façons de voir l'amour, l'une un peu potache, dutronesque, l'amour moelleux, et puis l'autre plus désespérée, plus sérieuse au fond, qui était cette chanson la préférée de Françoise Hardy?
Oui, ça, ce sont en cas opposés, quoi. Donc... pour ce qui concerne l'hymne à l'amour, c'était des paroles de Gainsbourg. Et Dutronc avait plaqué une espèce de blues là-dessus. Je trouve ça très efficace, très drôle. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait encore aligner des injures raciales comme il le fait. Ça passerait peut-être un peu moins bien aujourd'hui. Mais l'autre chanson, écrite par Lanzmann au niveau du texte cette fois, je trouve que c'est une magnifique chanson. Mais c'est vrai qu'il en a fait très peu des aussi... aussi romantique, aussi tourné vers le sentiment amoureux. C'est pas quelque chose qu'il exprime facilement. Françoise serait bien placée pour répondre à ça.
Dans la maison de Monticello, on trouve toujours les amis, ou plutôt le clan de Jacques Dutronc. Comme dans un motel américain, les chambres ne donnent pas sur un couloir à l'intérieur de la maison, mais ouvrent directement sur l'extérieur. On vit ensemble, mais indépendamment. À certaines heures, on travaille un peu, ceux qui sont musiciens se retrouvent parfois au studio. Mais surtout, il y a l'apéro, où chacun se doit d'être ponctuel. L'heure du début est très précise, l'heure de fin est très variable. Toujours est-il que, dans son repère, à l'écart du monde où il fait venir son petit univers, Dutronc se laisse aller à une certaine paresse d'artiste. Et pourquoi pas après tout. Archive 2010 avec Vincent Joss.
Et la musique a sa place là-bas, régulièrement ou de temps à autre ?
C'est pas régulier. La musique, elle est de la musique partout, mais à écouter et ne pas en faire en tout cas. J'ai un studio là-bas pour en faire, mais non, c'est de temps en temps. qu'on travaille lorsqu'on a des choses à faire ou à dire. Mais si j'ai rien à dire, je vais pas me fixer devant, comme un écrivain devant une page blanche, en remplissant. Là, se fixer devant des guitares et des amplis et un tas d'enregistreurs, c'est...
Mais vous avez eu des choses à dire, puisque vous êtes sur scène avec un répertoire d'autrefois. Donc autrefois, il y a eu une source. Elle est tarie ?
Ah non. Avec ce qu'il est tombé là, non, ça va.
Pour les besoins de votre biographie, Michel Lady, vous avez été passé du temps en Corse, chez Jacques Dutronc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Quels sont vos souvenirs de l'atmosphère de cette maison ?
Il y a un côté paradisiaque dans cette maison, à cause du décor, ou grâce au décor déjà. La maison est super bien conçue pour que chacun soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chez soi et en même temps avec des espaces communs pour les repas et les apéros.
Ça, c'est vraiment pensé pour la façon de vivre de Jacques Dutronc.
Voilà.
Ensemble, mais séparément.
Exactement. Et lui-même peut avoir un tas d'invités un jour et dire à 19h, ils disent pareil, ils montent et... Il est au premier étage, il voit qu'il y a du monde à la terrasse, il est content et ça lui fait plaisir que les gens se retrouvent, même s'il n'en fait pas partie. Donc il a ce côté extrêmement accueillant. Et puis un côté aussi, il faut respecter ses horaires, quoi. Bon, lui, il se lève très tôt, il faut qu'il nourrisse les chats à 6h du matin, donc il est un peu insomniaque, donc il a besoin de se coucher tôt. S'il rate le coucher de, on va dire, 9h, 10h, 10h du soir et il dort pas, et bon, après ça l'agace un petit peu.
Alors, on a entendu une certaine distance de Dutronc par rapport à son travail de musicien, alors que Hardy semblait davantage dans une recherche de renouvellement à divers moments de sa carrière. Est-ce que ça vous paraît juste de dire que Dutronc est un dilettante? C'est d'ailleurs ce que lui-même voulait qu'on croie, ou veut qu'on croie, en tout cas il le dit tout le temps, alors que Françoise Hardy serait davantage quelqu'un qui aurait travaillé plus sa carrière musicale?
Oui, c'est certain qu'il y a plus de, je vais employer un terme pas terrible, des plans de carrière chez Françoise Hardy que chez Jacques, qui a toujours fait les choses, je vais pas dire contraint et forcé, parce que c'est quand même lui qui décide au bout du compte, mais si, depuis le début, s'il pouvait rester à la maison et voir ses potes et fumer des cigares, et tout, ça suffit à son quotidien.
Vous pensez que c'était une contrainte, le travail, pour lui? Oui. C'est quand même un travail qui est un travail artistique,
oui.
Donc c'est plutôt agréable, a priori.
Oui, mais dès que c'est un travail, c'est plus... Il y a une forme de contrainte, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un qui aime les contraintes. C'est un enfant gâté qui a grandi, qui a eu la chance de pouvoir grandir comme un enfant gâté, quoi. Parce que Françoise le gâtait aussi, dans certaines façons, dans sa façon de voir les choses et de vivre au quotidien.
Petit détour induit par les archives pour mieux ensuite revenir à notre sujet. Au cours de mes recherches dans la salle des archives, je suis tombé sur une émission étrange qui mentionnait Jacques Dutronc au passage, mais dont le sujet n'était pas Dutronc lui-même. C'était une émission de France Culture datant de 1987, dans laquelle les tempéraments des êtres humains étaient classés en 4 types de personnalités, reflétant les 4 saisons de l'année. Et Dutronc figurait comme un exemple d'homme de l'été.
Je parle d'homme et de femme.
Au point de vue accessoire, eh bien, précieux. Les accessoires sont impeccables, précieux. Ils sont indispensables à la mise en valeur d'un été, c'est-à-dire les gants, les pochettes, les cravates... Les parfums sont légers et fleuris pour qu'ils tiennent bien sur la peau. La décoration intérieure est très raffinée, lumineuse, riche mais épurée, de très bon goût. Les personnalités, vous allez reconnaître les saisons froides, donc les étés froids, c'est Grace Kelly, Ingrid Bergman, Catherine Deneuve, Meryl Streep, Jane Birkin, Isabella Rossellini, Barbara Streisand. Pour les hommes, Jean-Louis Trintignant, Peter O'Toole, Paul Newman, Carole Bouquet, Jacques Dutronc, Boy George, Fanny Ardant, Ava Gardner, Greg Jones, Coluche, Gérard Philippe. Pour les hommes, Alain Delon, ben vous voyez la Richard Berry, Serge Gainsbourg, Samy Frey, Lambert Wilson, Julien Clerc, Daniel Mesguich et Yannick Noah pour un noir, pour bien voir la différence entre un noir doré et un noir bleu.
La manière dont Yannick Noah est ici réduit à la couleur de sa peau choque aujourd'hui, et c'est précisément pourquoi nous avons voulu la laisser au montage, car ce que permet l'archive, c'est de montrer la distance, la différence avec aujourd'hui. Alors on ne va pas avoir le temps d'écouter plus longtemps cette émission, mais sachez que l'énumération des personnalités et des saisons s'étend pendant encore plusieurs minutes. On se demande sans cesse s'il s'agit d'un canular, d'une émission sérieuse ou de quelque chose qui se situerait à peu près entre les deux. Cette émission étrange, je ne sais pas non plus si on pourrait encore l'entendre sur les ondes aujourd'hui. Cela aussi montre la distance, la différence avec notre époque. C'est cela aussi que permettent les archives. Fin de la parenthèse. En tous les cas, ce qui m'a sauté aux oreilles en écoutant ce document, c'est que Dutronc était placé dans la même catégorie de personnalité que Serge Gainsbourg et que cette catégorie était l'été. Or, on ne voit pas vraiment en quoi tous les deux seraient particulièrement estivaux. Personnellement, je les classerais plus spontanément dans la saison automnale, celle de la belle mélancolie. Il est vrai en revanche que tous les deux étaient très amis. Gainsbourg était même ami de toute la famille. C'est lui, par exemple, qui a fait boire sa première coupe de champagne à Thomas quand il avait 11 ans dans un restaurant chinois. Merci, tonton Serge. Thomas qui a d'ailleurs raconté les retours à la maison de Gainsbourg avec son père, ramené au petit matin par quelques policiers, toutes sirènes hurlantes, parce qu'ils avaient passé la nuit en cellule de dégrisement, cette cellule que les deux hommes appelaient l'un et l'autre leur suite. Archives Serge Gainsbourg, 1984.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?
Bon, il fut un temps où j'en voyais un sarcasme, genre la rapidité qui m'est à se tirer de chez moi, mais ça, c'est plus, ça n'est plus de mise. Non, non, pas après ce disque. La qualité, pardon, que je...
Chez vos amis. La qualité que vous préférez chez vos amis.
Que je préfère chez mes amis. Qu'ils sachent tenir la route sur le plan éthylique avec moi. Il y en a un ou deux comme ça. J'ai de bonnes adresses. Dutronc, par exemple, il tient bien la route. Non, non, mais si on s'écroule, c'est moi, d'abord, je tiens le parcours. Ensuite, je sais pas. C'est assez lamentable, un homme qui vacille. Alors, autant qu'il tienne la route. Une qualité.
Michel Lédy, à quoi vous fait penser cette archive de Serge Gainsbourg ?
Ce que Jacques me disait souvent, c'est que Serge avait tendance un peu à tout ramener à lui. Il avait un côté de sa personnalité que si, par exemple, il avait une petite écharde dans un ongle, qui s'était fait comme ça malencontreusement, et vous venez de vous amputer d'une jambe, c'était ça qui était plus, c'était l'écharde qui était plus importante que, et il revenait constamment là-dessus. Bon, un petit exemple. Et qu'il aimait bien d'après Jacques, se vanter aussi de certaines choses. Et qu'en l'occurrence, tous les graffitis qu'il y avait sur la rue de Verneuil, qui y sont peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui, certains étaient écrits par Serge lui-même.
Leur amitié, c'était évidemment musicale, et c'était aussi peut-être basé sur un certain désenchantement, vous ne croyez pas ?
Oui. Ce dont je me souviens, c'est que l'un, avant de se rencontrer, ils se respectaient tout à fait mutuellement, artistiquement parlant, parce qu'ils ne se connaissaient pas, et que Françoise, bon, mariée avec Jacques à l'époque, et chantait « Comment te dire adieu », texte de Gainsbourg sur une musique anglaise. Donc, Françoise savait que ça matcherait entre les deux, donc elle a longtemps insisté, mais chacun nous... Non, c'est pas la peine, j'ai pas envie de le rencontrer. Préférait rester sur l'aspect totalement... voilà.
Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, selon vous ?
Bon, musicalement, ils ont des goûts, je pense qu'ils peuvent se retrouver sur pas mal de choses. Tout ce qui est le côté un peu jazz ou blues, qui les rassemble un peu tous les deux, même s'ils ont fait des choses bien différentes chacun. Mais il y avait ça, et il y avait le côté social autour d'une table avec quelques verres. Ça, ils savaient très bien que ça marcherait aussi, et sûrement beaucoup de choses. Le côté plaisanterie, calembour, voilà.
Humour potache.
Humour potache et irrespect en général de beaucoup de choses.
Autour donc de quelques verres.
Non, mais je vais pas dire comme Boris Vian, hein, je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme, mais. Bah, parce que j'aime les bons produits, ça c'est déjà ça. Puis en principe, c'est un inhibiteur. Le tout, c'est d'être quelqu'un d'autre. Bon, j'ai aussi toujours dit, je ne vois pas pourquoi je changerais, beaucoup de gens boivent, mais très peu savent être bourrés, quoi, voilà. Il faut arriver à ça, et c'est tout. Non, mais l'alcool, pendant 5 ans et demi, j'ai arrêté, c'était bien aussi.
Alors, il paraît que ça, vous l'avez fait, et on va essayer de le retrouver, parce que c'est un clin d'œil aux Suisses. Vous avez pris la décision,
oui,
en direct,
oui,
sur la télévision suisse.
Exact.
Tout le monde vous a pris pour un fou, et vous avez tenu 5 ans. C'est
et
incroyable,
demi,
quand même.
Et demi.
Merci les Suisses. Hein.
5 ans et demi, oui, télévision suisse, on a filmé ça dans un restaurant qui s'appelle La Bergerie, là, sur la route de Monticello. Ouais. J'ai des témoins, Et moi surtout, ouais, j'ai arrêté total. Ce qui fait que j'ai été malade, enfin bon, dépression, enfin tout.
Oui, j'imagine.
Ouais. Ouais, c'était pas bien du tout.
Mais le matin, quand vous êtes levé, vous saviez que vous alliez dire ça ?
Non.
Dans cette archive qui date de 2005, oui, Michel Lédier, oui. On entend un Dutronc qui parle quand même assez facilement de sa dépendance à l'alcool.
Oui. Oui, oui, il en parle facilement. Effectivement, il a tenu ce qu'il a dit. Il a re-cessé de boire pour les dernières tournées qu'il a faites. Et aujourd'hui, il ne boit plus.
L'alcool, disait Dutronc, il y en a deux versions. Soit c'est un ennemi qui te veut du bien, soit c'est un ami qui te veut du mal.
Coupez !
Je sais bien ce que tu penses de moi. Je sais ce que tu penses de toutes mes conneries. Il y a un mot pour ça. Un mot que j'ai retrouvé dans mon petit Robert, relié cuir et doré. Le mépris.
Mais je ne te méprise pas, Jacques.
Le cinéma, c'est l'autre carrière de Jacques Dutronc. Elle commence en 1973 avec Antoine et Sébastien de Jean-Marie Perrier, un film presque en famille avec l'ex donc de Françoise Hardy. Durant sa longue carrière d'acteur, Dutronc a tourné une quarantaine de longs métrages. Mais quel était son amour véritable pour le 7e art ? On trouve dans la salle des archives un témoignage dans lequel il évoque ses souvenirs de jeunesse des salles de cinéma.
Dans le cinéma, j'adorais ça. Ouais. Mais là, ici, il faut aller à Bastia, où il y en a un à Ile-Rousse, un cinéma, mais bon, c'est assez réduit les programmes. Hein. Enfin, je veux dire, bon.
En tout cas, je sais que la salle de cinéma, c'est un lieu qui a beaucoup compté pour vous.
Mais j'étais amoureux plus des comédiens que du film. Alors, le problème, c'est que je plongeais un peu tel comédien dans tel film, j'y allais, même si c'était mauvais. Et je suivais ce comédien ou cette comédienne. Mais alors l'odeur dans les salles, ça dépendait des films. Il y avait une salle qui était géniale, qui était rue d'Athènes, toujours le quartier de la Trinité, qui s'appelait Les Agriculteurs. Les sièges devaient faire à peu près un mètre de large, minimum, des gros fauteuils club en cuir. Magnifique, cette salle. Et je sais, le dernier film que j'ai vu là-dedans, c'était... un film d'Hitchcock, là, comment ça s'appelle, où il y a Harry dedans. Mais qui a tué Harry? Non, c'est pas ça?
Ouais.
Oui, c'est ça.
I'd like to hear more of your life story, if you don't mind. You see, we don't know quite what to do with Harry. Thought you might have some suggestions.
You can stuff him, for all I care. Stuff him and put him in a glass case. Only I'd suggest frosted glass.
What did he do to you? Besides marry you.
Michel Lédier, est-ce que vous diriez que Dutronc aimait profondément le cinéma ou est-ce que c'est l'occasion d'en faire qui l'a fait un petit peu basculer de cette carrière de chanteur à cette carrière d'acteur ?
Non, il avait un vrai amour du cinéma et il l'a toujours d'ailleurs. Et on parlait tout à l'heure de son studio sous sa maison en Corse. Elle sert plus de salle de projection que de studio de son. Hein. Il aime les acteurs surtout. Et pas forcément les acteurs les plus connus. C'est-à-dire qu'il a souvent il m'a parlé de Noël Roquevert, qui est un vieux de la vieille, qui est dans les cinémas des années 50, 60, et qui était pointu, un peu méchant, un peu ridicule aussi quelquefois, mais il, voilà, c'est le genre de personnage qu'il adore au cinéma.
Pour que ce soit bon, il faut mettre 5 fois le volume d'eau.
Ben, je croyais que c'était un jour sans.
Et alors ?
Et que le Pernod était défendu.
Et alors, moi, ça me défatigue.
Ça te plaît, la toile ? Hein ? Le bleu, ça ? Tu auras ton portrait en bleu ?
C'est sans doute Maurice Pialat qui lui a donné son rôle le plus marquant au cinéma. En 1991, Dutronc interprète Van Gogh devant la caméra du maître.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes. Chanter le regard de mon père. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus sale, de plus laid, de plus inutile pour mériter ce regard-là. J'ai essayé sérieusement et simplement de peindre à ma façon. C'est tout.
Un point commun avec Van Gogh là, dans ce film, c'est quoi ? Les femmes, l'alcool et le désespoir ?
Les femmes, non. L'alcool, c'est fini. Le désespoir, peut-être. Un peu. Ça me paraît la moindre des choses d'être légèrement désespéré. Ça me paraît la moindre des politesses.
Michel Lédier, sur cette archive, sur les points communs de Dutronc avec Van Gogh, enfin Van Gogh tel qu'on se l'imagine peut-être.
Oui, J'aurais dit ça, parlant de lui à sa place, si j'avais eu l'occasion. Mais ça me fait rebondir sur une archive passée où vous parliez de saison et où il était symbolisé par le... Enfin, où il représentait plutôt l'été. Non, il est sombre, Jacques. Il le dit lui-même. J'ai oublié le terme qu'il emploie. Désespoir, je crois qu'il a parlé de désespoir. Oui, ben, ça le caractérise... bien souvent dans la journée. Hein.
Personnage hivernal.
Je le mettrais plutôt en décembre, janvier. Ouais.
Moi, j'avais mis l'automne, c'est possible.
C'est bien
aussi.
C'est bien aussi.
Quelque chose de très beau aussi dans l'automne.
Mais c'est ça qu'il est plusieurs, évidemment. Donc, il peut par moments être flamboyant, certes.
En tout cas, il a reçu en 92 le César du meilleur acteur pour ce rôle de Van Gogh. Ça signifie qu'à un moment donné, il était davantage acteur et que peut-être aujourd'hui, même si on s'en souvient quand même plutôt comme un chanteur, finalement, ça a peut-être plus compté, au fond, le cinéma pour lui que la chanson sur l'ensemble de sa carrière.
Je pense que les gens se souviendront de lui comme chanteur plus qu'acteur. Mais il a quand même, c'est vrai, marqué, je pense, le cinéma français par quelques rôles, notamment celui avec Zulawski, L'importance est d'aimer, et le Van Gogh, oui, qui sort de l'ordinaire, pour le coup, ça c'est clair.
Même si Piala jugeait la performance de Dutronc discutable, d'ailleurs, ils se sont brouillés à cause de ça.
Mais Piala, je pense que, enfin, il m'a raconté des choses, mais horribles, le côté pervers de Piala, refaire des scènes pendant 15 fois pour juste rentrer dans une pièce et ouvrir la porte, quoi. Ouvrir la poignée, enfin, baiser la poignée pour rentrer. Non, tu la refais 10 fois, 15 fois de suite, quoi.
Alors, Dutronc a eu quand même ce bon mot quand on lui a demandé quelle serait sa réaction si Piala voulait de nouveau le faire jouer dans un de ses films. Il a dit « Ma réaction, d'abord, c'est que je dirais non pour lui faire plaisir et ensuite, je lui dirais oui pour lui donner satisfaction. » Oui, c'est tout à fait du tronc.
C'est tout à fait du tronc et je crois que c'est bien résumé.
Effectivement, une fois j'étais au Hilton, enfin plus précisément au bar du Hilton, mais avant l'ouverture, avec le barman. Et comme il faisait un peu sa mise en place, et il mettait la radio. On entend Flash Spécial, on vient d'apprendre la mort de Jacques Dutronc. Le barman, il me fait « Putain, ça va !» Et je lui dis « Ah là, t'es témoin, là !» Mais il avait quand même des doutes. Je lui dis « Attends, je suis là devant toi, me dis pas... » Mais il écoutait la radio, vraiment. Il disait « On vient d'apprendre ça, et tout ça, et tatatatatata. » Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit « Sur ma tombe, faudrait écrire encore. »
Michel Lédier, quel était le rapport, ou quel est le rapport à la mort de Jacques Dutronc ?
Il n'aime pas en parler du tout. Il ne faut surtout pas lui dire comment ça va quand il a eu un petit pépin deux semaines avant, quoi. Il y a un côté superstitieux chez lui. Et le fait d'en parler peut aggraver son cas.
Donc quand il entend à la radio qu'on annonce sa mort...
Là, ça le fait plutôt rire, parce que... De fait, il n'est pas mort, parce qu'il l'entend. Donc peut-être que s'il avait été sur un lit d'hôpital et qu'il entend ça, là, peut-être que ça le ferait un peu plus flipper que là. Là, il raconte ça comme quelque chose de drôle, quoi.
Quand on voit des gens de sa génération disparaître autour de soi, Jacques Dutronc, qu'est-ce qu'on ressent ?
Ça dépend lesquels. Il y en a d'autres, je souhaite qu'ils disparaissent, malheureusement. Mais je ne peux pas les citer, parce qu'ils vont se fâcher.
Ah ouais, mais ça, évitons.
Mais pour moi, ils ne disparaissent pas vraiment, vu qu'ils sont toujours au Cinoche ou dans les disques. Mais ils ne disparaissent jamais vraiment, je ne pense pas. Bon,
C'est quelque chose qui vous fait peur, à vous ?
À force, je commence à y penser, parce que tous les gens autour de moi sont en train de la glisser. J'ai toute une génération de potes qui a disparu. Avant, je n'y pensais absolument pas. C'était réservé à d'autres gens, des gens âgés. Mais maintenant que je suis âgé, il faut peut-être y penser. C'est elle plutôt qui pense à nous, je crois, non ?
Tout au long de cette série, nous avons voulu parler d'un couple extraordinaire et normal à la fois. D'un couple authentique, au sens où Hardy et Dutronc auraient pu se plaire, même s'ils n'avaient été ni l'un ni l'autre les stars qu'ils ont été. Un couple qui s'est bien trouvé, en somme, pas seulement un couple de stars. Ils ont aussi été des reflets de leur époque, chacun dans leur rôle, masculin, féminin, tout en inventant de nouvelles manières de vivre à deux. Ils ont formé une famille, et ils sont aussi, je crois, pour les gens qui aiment leurs chansons et leur histoire, oncle Jacques, tante Françoise et cousin Thomas. « C'était Hardy Dutronc, féminin masculin, une série de Salles des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner, prise de son Mathieu Leroux, mixage d'Ophar Guéride, documentation Ina Émilie Lacot, documentation musicale Antoine Vuilloz.